La puissance d'en haut par Dwight Moody. Une personne peut avoir un zèle sans connaissance et une autre la connaissance sans le zèle. Si j'avais à choisir entre ces deux grâces, je crois que je préférerais la première. Mais avec une Bible ouverte, nul ne doit être privé de la connaissance de la volonté de Dieu et de ses desseins. Le but de ce livre est d'indiquer la source de la vraie puissance afin que notre zèle et notre connaissance s'accroissent dans le service du Maître. Paul a dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile, mais je crois que le sujet que nous allons traiter a été trop laissé de côté, comme n'étant pas assez pratique, il en est résulté un manque de puissance dans le témoignage de l'Église et dans son œuvre. Si nous désirons travailler pour Christ, non comme battant l'air, mais avec un but bien défini, nous serons revêtus de la vertu d'en haut. Sans cette vertu, notre service sera une corvée, avec elle, il deviendra une douce tâche et un travail joyeux. Moody, chapitre 1. La puissance, d'où vient-elle? Si l'âme n'est pas vivifiée par une force divine, toutes les cérémonies les plus grandioses du culte ne sont pour elle que les mouvements que le galvanisme imprime à un cadavre. Je cite cette parole d'un écrivain inconnu parce qu'elle me fait entrer sans préambule dans mon sujet. Qu'est-ce qu'être vivifié? Qu'est cette puissance dont nous avons besoin? D'où procède-t-elle? Je réponds en nommant l'Esprit de Dieu. Je crois au Saint-Esprit, comme s'exprime le symbole des apôtres. Quelqu'un a fort bien dit encore que sont nos âmes sans la grâce? Une branche morte où la sève ne circule pas? Quelle église sans elle? Un sol aussi aride et nu qu'un champ sur lequel ne tombe ni rosée ni pluie. On s'est beaucoup occupé dernièrement du Saint-Esprit et des milliers ont étudié ce grand sujet. J'espère que nos recherches nous disposeront à demander une plus complète manifestation de sa puissance sur l'Église. Nous l'avons déshonorée, nous avons méconnu son amour et sa présence. Nous avons entendu parler de lui sans avoir compris ses attributs, son œuvre et ses rapports avec nous. Je crains que pour bien des chrétiens de profession, son existence ne soit pas une réalité actuelle, ni qu'il ne leur soit connu comme l'une des trois personnes de la Trinité. Le Saint-Esprit communique d'abord la vie, une vie spirituelle. Il la donne et il la maintient. Là où n'est pas cette vie, il ne saurait y avoir de puissance, comme le dit Salomon, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Mais quand l'Esprit a produit la vie, il ne la laisse pas défaillir et mourir, car il en entretient constamment la flamme. Il demeure avec nous et nous n'ignorons ni sa puissance, ni son action. Personnalité et identité. Nous lisons 1 Jean 5, 7, car il y en a trois qui rendent témoignage. Le Père est la première personne, Christ la seconde, et l'Esprit uni au Père et au Fils pour accomplir parfaitement sa propre œuvre, et la troisième. Ma Bible m'enseigne clairement que le Dieu, qui réclame mon amour, mon service et mon adoration s'est révélé ainsi lui-même et qu'une personnalité distincte est attachée au Père, comme au Fils et à l'Esprit. C'est pour cela que Dieu a certains attributs comme Père, il en a d'autres comme Sauveur, et d'autres encore comme Consolateur et Docteur. Les plans formés par le Père sont exécutés par le Fils et appliqués par l'Esprit. Je crois aussi qu'ils ont fait le plan ensemble et l'exécutent de concert. Les trois personnes sont indiquées dans l'Écriture comme étant distinctes. Matthieu 3, 15-17, Jésus lui répondit : Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Nous voyons Jésus qui se soumet à être baptisé, le Saint-Esprit qui descend sur lui, et la voix du Père qui approuve, disant : C'est ici mon Fils bien-aimé. Jésus dit ensuite : Jean 14, 16 et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous ? C'est aussi par Christ que les Juifs et les Gentils ont accès auprès du Père dans un même esprit. Éphésiens 2, 18, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Les trois personnes de la Trinité sont donc distinctes et inséparablement unies. Ces textes, et d'autres encore, nous montrent l'identité et l'existence actuelle du Saint-Esprit. Si l'on me demande « comprenez-vous cette doctrine de l'Écriture ?», je répondrai que non, mais ma foi s'incline devant la parole inspirée, et je crois pleinement les grandes choses que Dieu m'y révèle, même quand ma raison est aveugle et mon intelligence confondue. La parole nous enseigne d'abord, puis le Saint-Esprit accomplit dans nos âmes une œuvre précieuse et nous fait sentir sa présence. C'est par lui que nous naissons de nouveau et possédons une puissance surhumaine. Il a inspiré les prophètes, qualifié les apôtres et il vivifie, conduit et console les vrais croyants. Ceci éprouve que sa personnalité est une réalité mieux démontrée que toutes les théories scientifiques. Ces théories basées sur l'observation fluctuant nécessairement, tandis que l'existence de l'Esprit de Dieu nous est d'abord révélée dans l'Écriture, puis elle devient pour nous un fait d'expérience intime. Quelques sceptiques affirment que la force physique est l'unique énergie vitale dans le monde, tandis que des milliers de milliers, qui ne peuvent se tromper, ont reçu une vie spirituelle par une puissance qui n'est ni matérielle ni mentale. Des hommes morts dans leur péché, des ivrognes qui avaient perdu l'énergie de leur volonté, des blasphémateurs, des débauchés sans moralité, des incrédules qui mettent leur gloire dans ce qui est leur confusion, ont senti la puissance du Saint-Esprit et marchent noblement comme des chrétiens devant tous, séparés par une infinie distance de leur vie précédente. Que d'autres méconnaissent à leur risque et péril cette impérissable vérité ? Quant à moi, je crois toujours davantage qu'une puissance créatrice, divine et miraculeuse, réside dans le Saint-Esprit. C'est lui qui gouverne et édifie l'Église en parfaite harmonie avec les lois naturelles qu'il domine, avec la création et la providence, il accomplit un ministère de vie plus glorieux que celui de la loi. 2 Corinthiens 6-10. Comme le Fils, il est éternel et possède la vie en lui-même, il peut donc agir d'après les conseils de sa propre volonté et pour la gloire de la Trinité de Dieu. Il a les traits distinctifs d'une personne, le pouvoir de comprendre, de vouloir, d'agir, d'appeler, de sentir, d'aimer. Une simple influence ne possède point ces choses-là. Ses attributs et ses actes ne peuvent provenir d'un agent mécanique ou d'une pure influence. L'agent est l'instrument. Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ceci nous montre que la proclamation de l'Évangile est liée intimement avec l'action de l'Esprit. Si celui-ci ne l'accompagne pas de sa puissance, elle est vaine, et le langage persuasif de l'éloquence humaine n'est dans ce cas qu'un piège mortel. Le prophète pouvait prêcher aux os secs, mais le souffle d'en haut devait seul les animer. Osée 2, 37, 9. Ézéchiel 37, 9, il me dit prophétise, et parla l'Esprit. Prophétise, Fils de l'homme, et dit à l'Esprit ainsi parle le Seigneur, l'Éternel Esprit, vient des quatre vents, souffle sur ses morts, et qu'ils revivent. Nous lisons 1 Pierre 3, 18 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous emmener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'Esprit. Nous voyons donc que le même puissant Esprit, qui a ressuscité le corps de Jésus, ressuscitera nos âmes mortes et leur rendra la vie, aucune autre puissance sûre. La terre ne peut opérer une pareille transformation. Et si nous désirons que nos amis, encore ensevelis dans leurs péchés, y aient part, regardons à Dieu et non à l'homme pour obtenir le réveil de leurs âmes. Si nous comptons pour cette œuvre sur les pasteurs ou sur les chrétiens, nous serons déçus, mais si nous attendons tout de la puissance de l'Esprit de Dieu, nous honorons cet Esprit, et il fera lui-même le travail. Le secret du succès. Je crois qu'un grand nombre de chrétiens désirent de voir plus de résultats dans l'œuvre qu'ils accomplissent pour le Seigneur. Notre but est de montrer à ceux qui ont ce désir de quelle source ils doivent attendre la puissance. Jésus a dit à ses disciples en les quittant, Matthieu 28, 19 allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici, le Fils et l'Esprit sont égaux au Père, un avec lui. Jésus donne une dernière mission à ses disciples, il va les laisser, car son œuvre est terminée sur la terre, et il est prêt à s'asseoir à la droite de Dieu. Toute puissance m'est donnée dans le ciel, et sur la terre leur dit-il. Toute puissance. Il la possède donc. S'il n'eût été qu'un simple homme, comme quelques-uns le prétendent, c'eût été un blasphème de se faire ainsi égal au Père. Je vois ici trois choses, la toute-puissance lui est donnée. Les disciples doivent enseigner toutes les nations, leur enseigner quoi ? À observer toutes les choses ordonnées. Bien des gens n'observent que ce qui leur plaît à l'égard de Christ et laissent de côté ce qui les embarrasse. Mais Jésus dit aussi bien d'enseigner à toutes les nations à observer tout ce qu'il leur avait commandé. Et quel droit a un envoyé de modifier son message ? Si je charge mon serviteur d'un message et qu'il ne le trouve pas de son goût, un peu trop rude peut-être, et qu'il y fasse quelques changements, je renverrai promptement ce serviteur. De même, lorsqu'un ambassadeur de Christ modifie son message parce qu'il s'imagine qu'il n'est pas exactement ce qu'il doit être, se croyant ainsi plus sage que Dieu, Dieu démettra cet homme de ses fonctions. Plusieurs des messagers de Christ n'ont pas enseigné toutes choses. Ils en ont omis quelques-unes parce qu'elles ne s'accordaient pas avec leur raison. Mais nous devons prendre la parole de Dieu telle qu'elle est, car nous n'avons aucune autorité pour en retrancher ce qui ne nous plaît pas ou ce qui ne nous paraît pas convenable pour nous laisser conduire par notre raison remplie de ténèbres. C'est l'œuvre de l'Esprit de toucher nos cœurs et d'y faire pénétrer la parole. Son office est de prendre ce qui est de Christ et de nous le révéler. Quelques-uns se figurent que cet Esprit n'a été manifesté que durant la dispensation présente et qu'il n'agissait pas avant que Christ eût été glorifié, mais il est dit du vieillard Siméon qu'il vint dans le temple amené par l'Esprit de Dieu et que cet Esprit lui a révélé qu'il ne mourrait point sans avoir vu le Christ. Les saints hommes de Dieu étant poussés par le Saint-Esprit ont parlé, dit Pierre. Nous le retrouvons dans la Genèse, comme dans l'Apocalypse, il a conduit la main qui écrivit l'Exode et inspiré plus tard les Épîtres, c'est lui qui parle d'un bout à l'autre de la Bible. Sa personnalité. J'étais converti bien longtemps avant de savoir que l'Esprit Saint était une personne. De nos jours, encore un grand nombre ne paraissent pas l'avoir compris, mais, si vous étudiez votre Bible, vous trouverez que le Sauveur a toujours parlé du Saint-Esprit comme étant une personne et jamais une simple influence. Il en est qui le considère comme un attribut de Dieu tel que sa miséricorde, par exemple, ou une vertu venant de lui. Mais Christ dit, Jean 14, 16 et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et encore Jean 14, 17, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Et plus loin il est dit, Jean 14, 25, je vous ai dit ces choses, pendant que je demeure avec vous. Remarquez les mots, il est lui. Je désire appeler votre attention sur ce fait que Jésus parle du Saint-Esprit comme étant une personne et non une influence, honorons-le donc comme une part de la divine Trinité. De lui procède l'amour. Le premier des dons de l'Esprit, c'est l'amour. Dieu est amour, Christ est amour. Ne soyez pas surpris de ce que l'Écriture parle d'eux. Romains 15, 30, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Quel précieux attribut est celui-là ? Oserais-je l'appeler le dôme du temple de la grâce ? Mieux encore, il est la couronne des couronnes de la Trinité ? L'amour humain est une émotion naturelle de l'âme qui la porte vers l'objet de son affection, mais l'amour divin est aussi élevé au-dessus de lui que le ciel l'est de la terre. L'homme naturel étant de la terre et terrestre, et quelque pur que soit son amour, il est toujours imparfait, tandis que celui de Dieu est complet et n'a pas besoin qu'on y ajoute. Il est comme le grand océan, rempli et débordant des flots de l'Esprit éternel. Nous lisons Romains 5, 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si donc nous sommes ouvriers avec Dieu, nous devons posséder cet amour-là. On peut être un avocat distingué sans avoir d'amour pour ses clients, un médecin habile, et être sans affection pour ses patients, un commerçant très heureux en affaires, sans avoir aucune tendresse pour ses pratiques, mais nul ne peut coopérer avec Dieu dans l'œuvre sans avoir de l'amour. Si notre service n'est qu'une simple profession, le plus tôt que nous y renoncerons sera le mieux. L'amour, sans lequel nous ne pouvons travailler pour Dieu, est le seul arbre sur notre terre maudite qui puisse produire du fruit acceptable aux yeux du Maître. Si je n'aime pas mon Maître, ni mes compagnons de misère, je ne puis rien faire qui soit agréé, je ne suis que l'airain qui résonnait la cymbale qui retentit. Si cet amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, nous sommes prêts pour le service de Dieu, sinon nous ne sommes pas prêts du tout. Il est si facile d'atteindre le cœur d'une personne quand nous l'aimons réellement. Toutes les barrières sont alors rompues et emportées. Que les vieillards soient purs dans la foi, dans la charité, dans la patience, dit saint Paul à Tite. J'ai remarqué que de nos jours l'Église est parfois très jalouse de la pureté de la doctrine. Si un homme n'est pas saint dans la foi, elle tire l'épée ecclésiastique et le retranche, mais cet homme pourrait manquer de charité et nul ne dira rien contre lui. Il manquera de patience, il sera irritable et inquiet constamment, sans qu'on pense à le reprendre pour cela. Cependant, la Bible enseigne qu'il nous faut être non seulement purs dans la foi, mais aussi dans l'amour et dans la patience. Je crois que plusieurs ne peuvent être employés par le Seigneur dans l'œuvre parce qu'ils sont irritables et impatients, ils sont agités du matin au soir. Dieu ne peut se servir d'eux, leurs bouches sont scellées et ils ne sont point en état de parler pour Christ. Quand je dis que sans l'amour je ne puis travailler pour le Seigneur, je ne veux pas dire l'amour pour ceux qui m'aiment, car la grâce n'est point nécessaire pour l'avoir, le tantôt le plus cruel, le païen le plus dégradé et le plus vil des pécheurs peuvent le posséder. Avant de devenir chrétien, l'amour des autres produisait le mien et leur haine me poussait à les haïr. Je sentais mon cœur attiré vers celui qui m'aimait le premier. Je suppose que quelqu'un vienne me dire « Monsieur Moody, un tel m'a dit aujourd'hui que vous étiez le dernier des hommes. » Si je ne possédais pas une bonne mesure de la grâce divine dans mon cœur, je sais qu'aussitôt j'éprouverais contre cette personne des sentiments d'aigreur et que je serais tenté de parler mal d'elle. La haine produit la haine. Mais supposons qu'on vienne me dire, « Monsieur Moody, savez-vous qu'un tel que je viens de rencontrer pense beaucoup de bien de vous ? » Quoique je ne connaisse pas cet homme-là, je l'aimerai tout aussitôt. L'amour produit l'amour, nous savons tous cela, mais il me faut la grâce de Dieu pour aimer une personne qui me calomnie, qui me méprise, qui flétrit ma réputation. C'est le péché qu'il faut haïr. Faites la différence entre le péché et le pécheur, car l'un doit être haï d'une parfaite haine et l'autre aimé, sans cela vous ne ferez aucun bien. Vous savez que c'est l'amour qui donne au nouveau converti sa première impulsion. Le jour où vous fûtes pardonné, comme votre cœur fut rempli de douce paix et d'ardente affection. Le cœur qui déborde. Je me souviens de la matinée où je sortis de ma chambre après m'être confié en Christ pour la première fois. Il me semblait que ce vieux soleil brillait d'un plus vif éclat qu'à l'ordinaire, il me souriait. J'allais me promener dans les champs et je crus que les petits oiseaux, qui chantaient dans les arbres, entonnaient un hymne pour moi. Le croiriez-vous ? Je sentis que j'aimais ces oiseaux, tandis que jusque-là je ne m'étais pas soucié d'eux. J'affectionnais la création tout entière, je n'avais plus aucun sentiment amer contre aucun homme, et j'étais prêt à les presser tous contre mon cœur. Si quelqu'un n'a pas cet amour répandu dans son cœur, il n'a jamais été régénéré. Si une personne se lève dans une réunion de prière et qu'elle se met à parler des défauts d'autrui, vous pouvez douter de la réalité de sa conversion. Cette conversion n'est qu'une contrefaçon, car elle n'a pas le vrai sceau. Le premier sentiment d'une âme convertie, c'est l'amour, et non le désir de trouver les autres en faute et de s'en plaindre. Mais il nous est difficile de vivre toujours dans cette pure atmosphère. Voici quelqu'un qui vient et qui nous traite injustement, peut-être serons-nous disposés à le haïr. Car nous n'avons pas profité des moyens de grâce et nous ne nous sommes pas nourris de la parole comme nous l'aurions dû. Une racine d'amertume bourgeonne alors dans notre cœur, sans que nous prenions garde à elle. Dès ce moment, nous devenons impropres à travailler à l'œuvre du Seigneur, parce que l'amour de Dieu n'est pas répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est cet esprit qui produit l'amour. Paul a pu dire « Aussi ne pouvait-il s'empêcher d'aller prêcher l'Évangile de ville en ville ?» Jérémie a dit un jour qu'il ne parlerait plus au nom de l'Éternel. Jérémie 29 « Si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur, comme un feu dévorant, qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, et je ne le puis. » Il avait assez souffert, pensait-il, et son peuple ne se souciait pas de la parole de Dieu. Il vivait dans des jours mauvais comme les nôtres. Des incrédules l'environnaient soutenant que les Écritures n'étaient pas la vérité. Ils finirent par le mettre en prison et là il se disait « Je garderai le silence, parler me coûte trop cher. » Vous savez que peu de temps, après il ne put plus se taire, le feu était dans ses os et il eut de quoi parler. Et nous-mêmes, quand l'amour de Dieu remplit nos cœurs, nous sommes contraints de travailler pour le Maître, et il bénit notre travail, tandis que si nous agissons par contrainte, sans divin et puissant mobile, nous n'obtenons aucun résultat. Maintenant, nous posons cette question, avons-nous l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs? Disons-nous la vérité, sous l'impulsion de cet amour. Quelques-uns parlent de la vérité d'une manière si froide et si éteinte qu'ils ne font de bien à personne. D'autres restent attachés à beaucoup de choses terrestres et laissent de côté une partie de cette vérité.